Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche, alors que la Bigorre est réunie à Lourdes autour de notre évêque pour porter à Notre-Dame les intentions de notre terre, elle qui est venue abondamment visiter cette terre, cette région montagneuse qui lui a plu, et bien de venir couronner de sa présence, de ses dons, de ses enseignements et de ses miracles qu'elle manifeste, pour que nous puissions opérer bien plus difficile que la guérison des cœurs, les guérisons intérieures et la conversion véritable, selon le commandement que le Seigneur vient de réaffirmer. L'amour de Dieu est un amour qui doit emplir tout notre cœur, toute notre âme et tout notre esprit. Et le revers de cet amour de Dieu, c'est l'amour du prochain. Le Seigneur, en maître de la vie intérieure, de la vie de nos âmes, en créateur, ne cesse de nous enseigner avec pédagogie comment revenir vers lui de tout notre cœur, malgré le péché, les divisions, notre orgueil, nos égoïsmes, qui défigurent en nous l'image et la ressemblance d'avec Dieu, avec laquelle nous avons été créés, cause de cette destruction intérieure de notre monde en raison de notre envie, de notre appétit, de notre soif de richesse et de gloire qui ne sont pas bien placés parce que la richesse que nous devons attendre n'est pas la richesse éphémère de nos comptes en banque, de nos monnaies virtuelles, mais la richesse de la vie intérieure, celle qui nous unit profondément au Christ, notre Créateur et Rédempteur, qui sera notre juge au dernier jour et qui seul peut nous permettre d'entrevoir dès ici-bas et de goûter là-haut dans la patrie le bonheur sans fin, cette vie éternelle pour laquelle il a créé cet univers passager, pour que nous passions avec lui de cette terre à la gloire du ciel. Pour cela, Notre-Dame ne cesse, en bonne mère, de venir visiter cette terre pour nous rappeler que nous ne devons pas tout placer pour le bonheur de ce monde, comme elle dira à Bernadette, à qui elle n'a pas promis le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre monde. Oui, le Seigneur agit toujours avec pédagogie, et Notre-Dame reprend cette pédagogie dans ses visites sur cette terre. Là, alors que l'on pose une question piège au Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus s'est mis à mal vis-à-vis des Sadducéens. Il ne croit pas au monde des anges, il croit encore moins en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Le Seigneur est la résurrection et la vie. Il est tout autant le créateur des anges que des hommes et des animaux et de tout cet univers créé que nous pouvons contempler. Mais voilà que les pharisiens placent toute leur espérance dans la loi reçue de Dieu, dans la tradition des prophètes, et finissent par penser que l'observance scrupuleuse de chacune et bien des lois de la tradition rabbinique fait qu'ils seront sauvés, et après tout, ce Messie qui tarde à venir, nous n'en avons pas besoin. Bien, le Seigneur déjoue leur piège. Ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu, et ce qui est second, non pas secondaire, c'est l'amour du prochain. Pour manifester au Seigneur combien nous l'aimons, nous sommes renvoyés à cet amour du prochain. Et le prochain, attention, avec nos télévisions et leurs manières, le prochain n'est pas sur un autre continent. Le prochain est celui qui est géographiquement, familialement, professionnellement à côté de nous. Et le Seigneur nous invite alors à ouvrir les yeux de notre cœur et à reconnaître dans les pauvretés qui nous entourent le Seigneur crucifié, le petit enfant pauvre dans la crèche de Bethléem, celui qui est prisonnier, celui qui est faussement accusé, celui qui est malade et laissé sur le bord du chemin. Et le Seigneur nous invite, eh bien alors, à être le bon Samaritain. La bienheureuse Vierge Marie use de la même pédagogie avec nous. Elle vient nous rappeler ses devoirs essentiels de la vie chrétienne. Notre monde n'est plus chrétien. Il faut que cela entre dans notre tête. Ce qui était la pierre d'angle de notre civilisation appartient malheureusement au passé. Et la Bienheureuse Vierge Marie, quand elle apparaît à Lourdes, quand elle apparaît à Fatima, quand elle apparaît au Japon, quand elle apparaît en ces lieux, ne cesse de nous dire qu'il faut revenir vers Dieu. Nous avons entendu la grande action de grâce de saint Paul dans la seconde épître. Une action de grâce qui aurait pu être la nôtre dans les périodes glorieuses de notre histoire. Saint Paul déclare « Chez vous, la parole du Seigneur a retenti, la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Eh bien nous avons besoin de parler de la foi, de l'espérance et de la charité, parce que ce monde s'est gravement éloigné de Dieu, de ses lois, va préférer le règne du démon, c'est-à-dire un règne dans lequel on vit comme si Dieu n'existait pas. Alors nous encourons le risque avec l'ensemble du genre humain que s'éteignons-nous la raison d'être de notre vie, cette vie de l'âme, cette vie intérieure qui doit avoir Dieu comme colonne vertébrale. Lorsque l'on enlève le Christ qui est la pierre d'angle de notre existence, il ne faut pas s'étonner que tout commence à s'effriter et que tout commence à s'effondrer. Nous ne respectons plus le bon Dieu et sa loi, alors nous ne respectons plus les dépositaires de cette loi. Nous ne respectons plus ceux qui sont là pour nous gouverner, nous ne respectons plus ceux qui sont là pour nous défendre, nous ne respectons même plus ceux qui viennent à notre secours dans leur camion de pompiers. Peut-être pas nous ici présents, mais nous voyons que lorsque nous enlevons le Christ, pierre angulaire de notre existence, tout s'effrite. Alors nous ne savons plus même ce qu'est un homme et une femme. Nous ne savons même plus comment élever des enfants à qui nous passons beaucoup trop de choses alors que notre mission, non seulement est de les éduquer, mais de les élever, de faire en sorte que dans leur âme, le Seigneur ait la première place, que le Seigneur soit aimé de tout notre cœur, de tout notre esprit, et c'est dire si notre intelligence doit rechercher le bon Dieu, tout comme dans notre âme où le Seigneur doit régner. Notre âme, aujourd'hui, est enténébrée. Eh bien, voilà que le Seigneur descend dans cette crèche intérieure, parfois nauséabonde par le péché, pour y resplendir. Alors, nous ne devons pas chercher dans nos télévisions, dans nos médias, qui sont là pour cultiver en nous la désespérance et les épreuves, ce que le Seigneur veut que nous trouvions à l'intérieur de nous-mêmes, ce trésor intérieur. Nous avons reçu le sacrement du baptême, qui fait de nous des fils de Dieu, héritiers de la vie éternelle. Là est la dignité de l'homme et de la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout ce que nous recherchons ici-bas, que ce soit par le biais de la science, par le biais de nos méditations, n'est pas en contradiction avec ce que le bon Dieu a créé. Cela ne serait pas cohérent. Voilà comment s'est bâtie notre civilisation. Le pape Benoît XVI l'avait admirablement rappelé lorsqu'il était venu en voyage en 2008 à Paris, puis en notre cité mariale de Lourdes. Ce qui est au fondement de toute la civilisation européenne, chrétienne, pourrions-nous dire, c'était la recherche de Dieu, qui fait que hommes et femmes ont pu quitter les désirs ici-bas de ce monde pour, dans un cloître, dans la prière, rechercher ce Dieu qu'ils aimaient tant. Et puis, dans nos familles, nous avions alors le grand désir de confier toutes nos épreuves, toutes nos difficultés, nos manques matériels et même le manque de pain de nos estomacs à cette providence de Dieu qui jamais ne manquait de manifester ses bienfaits. Cette confiance que nous placions alors en Dieu, c'est ce que nous appelons la foi. Et cette force que le Seigneur nous donne dans les épreuves pour les traverser avec lui comme crucifié sur la croix, c'est ce que nous appelons l'espérance. Et ce refus de l'indifférentisme, c'est ce que le Seigneur appelle la charité, parce que cet amour de Dieu ne nous éloigne pas, même dans un cloître, de cette contemplation, de cette prière de Dieu, mais nous renvoie à l'amour du prochain. Et notre Église s'est toujours manifestée par ces hôtels Dieu où on venait guérir et soigner gratuitement tous ceux qui se présentaient à nous. Eh bien, voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons rebâtir. Tout d'abord, notre vie intérieure de notre âme, c'est cela qui réjouira le cœur de Dieu. C'est cela aussi qui fera que nos aïeux dans la foi seront fiers de nous, eux qui, à temps et à contre-temps, ont versé leur sang pour que nous soyons libres. Mais le Seigneur nous dit que la liberté véritable, c'est la liberté intérieure, et que c'est ce qui nous rend libres, c'est la vérité. La vérité vous rendra libre, dit le Seigneur. Cette vérité est à l'unisson de notre conscience et le Seigneur nous l'enseigne dans l'Évangile. Alors nous comprenons pourquoi Notre-Dame, à la grotte bénie de Lourdes, est venue dire en 1858, mais cela est bien actuel en cet an de grâce 2023, qu'il fallait beaucoup prier, c'est-à-dire unir notre âme au bon Dieu. Il fallait beaucoup prier pour les pécheurs, et nous sommes de pauvres pécheurs, mais des pécheurs sauvés et pardonnés par le Seigneur. Il nous relève de nos péchés comme il nous relèvera d'entre les morts au dernier jour. Telle est notre foi et notre espérance. Et la bienheureuse Vierge Marie nous dit non seulement qu'il faut prier pour la conversion des pécheurs, mais elle trace un chemin de rédemption pour nous. Elle nous dit « Allez donc à la source ». La source, c'est le Christ, le seul qui peut étancher notre soif. Allez à la source, boire, mais aussi nous laver, c'est-à-dire laver comme nos vêtements dans le sang de l'agneau, alors que le Seigneur nous rétablit dans sa miséricorde et nous envoie, telle la pécheresse, « Va et maintenant ». Ne pêche plus, moi non plus, je ne te condamne pas. Oui, le Seigneur ne cesse de nous relever. Et parfois, c'est nous qui restons confortablement installés dans nos fauteuils et dans nos canapés. Dans nos vies, somme toute confortables et nous ne laissons même plus le bon Dieu nous déplacer. Eh bien, voilà que le Seigneur veut attiser en nous cette flamme intérieure reçue à notre baptême et au jour de la confirmation. Alors que nous recevons le Seigneur dans la Sainte Communion, il est ce foyer ardent de notre âme. Puisse-t-il réchauffer tout ce qui en nous est froid ? Puisse-t-il véritablement triompher en notre âme, mais aussi revenir dans nos familles, revenir dans notre nation, qui fut jadis l'une de ses préférées, la fille aînée de l'Église. Quel cortège de saints admirables allons-nous contempler lors des fêtes de la Toussaint. Quel cortège de nos aïeux dans la foi, qui sont déjà au ciel et qui prient pour nous. Avons-nous pour modèle? Ils ont façonné notre France, ils ont façonné de par le monde lui-même. Eh bien, prions pour qu'en nous ne s'éteigne pas cette foi, cette espérance et cette charité. C'est ce que l'Église, partout dans le monde, demande aujourd'hui au bon Dieu. Vous relirez, vous méditerez l'oraison qui a ouvert cette messe. Augmentez en nous, Seigneur, la foi, l'espérance et la charité, afin que nous puissions vous aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, afin que nous puissions alors aimer le prochain. Et le Seigneur a précisé, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que l'heure où il dit cela n'est pas encore celle de la croix. Une fois que le Seigneur est mort et ressuscité, il ne nous dit pas seulement d'aimer le prochain comme nous nous aimons nous-mêmes, il nous dira qu'il va falloir aimer le prochain comme lui nous a aimés. De cette perfection de l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et bien voilà pourquoi la Vierge Marie vient nous enseigner, nous invite à aller à la source boire et nous laver, nous invite à la conversion, nous invite à opérer des œuvres de pénitence pour montrer au Seigneur que nous ne sommes pas indifférents aux misères du monde, mais que nous avons un grand désir de lui appartenir, lui qui est notre bonheur et notre joie. Puisse Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, nous aider en cela. Ainsi soit-il.